Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Aligre. Vous êtes à l'écoute de l'émission Lusitania. Lusitania est une émission hebdomadaire sur l'actualité culturelle liée de près ou de loin à la lusophonie. L'émission aujourd'hui est consacrée à Eva Viegas et Quentin Chartier. Bonsoir tous les deux.
Bonsoir.
À la technique, Thomas, Alexandre, Dariano et Armand. Merci tous les quatre. Eva, elle est pianiste et Quentin clarinettiste. Nous avons le plaisir de les accueillir et de découvrir ces deux musiciens qui, tout au long de notre émission, nous allons les découvrir. Donc, Eva Viegas et Quentin Chartier, qui seront en concert le lundi 29 à la Maison de l'Île-de-France, à la Cité universitaire, à partir de 20h, pour un répertoire qui nous fera voyager entre la péninsule ibérique et l'Amérique latine. Bonjour Eva.
Bonjour.
Bonjour Quentin Chartier.
Bonjour.
Alors, Eva Viegas, est-ce que vous pourriez commencer pour vous présenter rapidement? Enfin, présentez-vous.
Alors, je suis pianiste, comme vous l'avez dit. Je suis née à Paris de parents portugais, donc Eva Viegas. Et je suis encore étudiante. Je finis cette année mes études à la Haute École de Musique de Genève, où je suis entrée en 2019. Et cette année, je termine un master en pédagogie. Donc, je me spécialise notamment dans l'enseignement musical, pour donner des cours de piano. Mais je ne suis pas seulement passionnée de pédagogie, je suis aussi vraiment passionnée de musique de chambre. Donc jouer avec mes partenaires, jouer dans des petits ensembles, et notamment avec Quentin Chartier. Et je donne des concerts seuls, ou le plus souvent accompagnés. Et je m'essaye aussi maintenant à la production, notamment de festivals ou de concerts en France, en Suisse, et j'espère un jour au Portugal.
Ah ben, je l'espère aussi, hein. Alors, Quentin Chartier, est-ce que vous pourriez vous aussi vous présenter rapidement?
Oui, ben alors moi,
clarinettiste. Je suis
clarinettiste, exactement. Comme Eva, j'ai fait mon début de parcours à Paris, puis ensuite j'ai rejoint Eva qui était déjà depuis un moment à la Haute École de Musique de Genève. Et pour tout dire, c'est là, on se connaissait d'avant, mais c'est là qu'on s'est mis à jouer ensemble, à vraiment faire de la musique de chambre, soit en duo, soit en trio. C'est aussi là où on a commencé à lancer des projets, de concerts. Et on vous parlera plus tard, je crois, du festival qu'on a monté pour cet été.
Oui.
Puis c'est aussi à travers Eva que j'ai découvert donc la musique portugaise, les fados, la musique populaire, et donc tout ce monde lusophone que je trouve incroyable.
Et que vous ne connaissiez pas?
Non, du tout. Du tout.
Alors, vous avez parlé des musiques des chambres. Apparemment, tous les deux, vous êtes passionnés pour ce style musical. Mais est-ce que, dans votre concert, vous n'allez pas faire de la musique des chambres, spécialement, quoique. Mais vous avez d'autres styles musicaux que vous faites régulièrement et que vous passionnent l'un ou l'autre? Alors, ou c'est vraiment la partie principale de votre enthousiasme, c'est la musique des chambres?
En fait, la musique de chambre commence à deux, à partir du moment où on n'est plus seul, et elle reste dans des petits ensembles. Moi, je dirais que c'est ce que vraiment j'aime le plus, jouer dans des petits groupes où on peut vraiment échanger en profondeur et aller ensemble au fond de la musique et de l'émotion. Maintenant, je joue aussi seule, évidemment. En tant que pianiste, on nous demande beaucoup de jouer seule, et c'est ce qu'on me demande souvent dans mes études, et j'y prends de plus en plus de plaisir. Et après, en termes de répertoire, il y a un peu tout qui m'intéresse, tout me passionne. Pour tout dire, j'aimerais même un peu chanter de la comédie musicale et de la musique populaire. Mais ce dont je fais vraiment mon métier, c'est principalement la musique de chambre.
Et les pianos. Donc, oui. Mais la voix aussi, vous essayez aussi au chant.
Alors j'en ai fait beaucoup quand j'étais plus jeune, plutôt du chant classique. Là maintenant, c'est plutôt un rêve. Je le fais beaucoup dans ma douche ou dans ma cuisine. Mais j'aimerais bien un jour peut-être sortir de ma cuisine en chantant, oui.
Je confirme, Eva a une voix incroyable. Elle a une grande carrière devant.
Donc du coup, elle pourrait jouer les pianos et chanter en même temps.
Je pourrais tout faire en même temps, mais il ne faudrait quand même pas que je sois toute seule. J'aime être avec les gens sur scène quand même.
Et vous, Quentin, est-ce que vous chantez vous aussi?
Alors non, mais d'autant plus qu'en faisant de la clarinette, c'est compliqué.
Non, non, on ne peut pas jouer et chanter avec la clarinette en même temps. Je suis d'accord.
Non, en fait, je suis très mauvais chanteur, contrairement à Eva. La clarinette me suffit très bien en fait, pour chanter, parce que c'est un instrument mélodique. Et on cherche à se rapprocher souvent de la voix, et c'est notre inspiration première pour notre quête dans l'instrument, dans la musique.
Alors Eva, on va passer tout de suite à un des morceaux que vous avez choisis. Je vous ai laissé à tous les deux les choix des musiques. Et donc on va passer tout de suite à un de ces morceaux que vous avez choisis parce que le compositeur a eu une grande influence dans votre parcours musical. Pouvez-vous nous parler un peu de cet musicien et...
Alors Modeste Moussorgski, c'est un compositeur russe. Qui a écrit, alors cette pièce que j'ai choisie, ce sont les tableaux d'une exposition, c'est sa pièce la plus célèbre, il n'y en a pas beaucoup d'autres qui sont très connues de lui. Et là j'ai choisi la version orchestrale. À l'origine ça a été écrit pour piano, mais moi-même j'ai d'abord découvert la version orchestrale, et je l'ai découverte en fait dans une collection de livres Actes Sud que j'avais quand j'étais petite. Et que j'écoutais en boucle, je les écoutais tous. J'avais
avec un CD.
Il y avait un CD dedans. Et en fait, il y avait une histoire avec chaque musique. Donc finalement, c'est ça qui m'a le plus plu et que je veux faire aujourd'hui, d'ailleurs, raconter des histoires en musique. Et j'écoutais Le Barbier de Séville, Le Petit Ramoneur, les tableaux d'une exposition. Et les tableaux d'une exposition, c'était de loin ma pièce favorite. Et d'ailleurs, c'est un rêve depuis de pouvoir le jouer au piano. Je l'ai fait, j'ai commencé à la travailler quand j'avais 18 ans. Mais je n'ai travaillé que le début, faute de temps. Et chaque été, je me dis que ça y est, c'est le moment, je vais monter toute la pièce. Et j'espère que celui-là sera le bon. C'est vraiment mon objectif.
Et comme vous avez été attirée par cet auteur à travers un CD pour enfants, est-ce que dans votre rêve, vous avez l'ambition de faire aussi des CD pour enfants ?
Alors, évidemment, comme je fais un diplôme de pédagogie et j'adore enseigner, et je me suis toujours beaucoup intéressée au concert médiation, on en fait d'ailleurs avec une super équipe de pianistes pour le Festival des Harmonies du Perche, qui a été créé en 2021, si je ne me trompe pas. Et alors, refaire un CD, je ne sais pas, pourquoi pas, mais on a créé l'année dernière un conte musical qu'on compte reprendre dans les salles, dans différentes salles, encore une fois en Suisse, en France. Voilà, donc oui, ça m'intéresse.
Avec Quentin ou sans Quentin ?
Alors, cette équipe-là, c'est une équipe seulement de pianistes.
Voilà. Donc, pas de place. Donc, on va écouter donc, ces morceaux oui, que vous avez choisis de Modeste Moussorgski, version orchestrée de Maurice Ravel, les tableaux d'une exposition des promenades. On va l'écouter tout de suite. On vient d'écouter Modeste Moussorgski, version orchestrée par Maurice Ravel, les tableaux d'une exposition promenade. Et c'est les choix donc, de Eva Viegas pour nous expliquer les pourquoi de ces choix. Alors, je vais poser la même question à Quentin Chartier, que lui, il a choisi Mozart. Et donc, je voudrais savoir pourquoi ces choix. Et parlez-nous donc de cette influence de cet compositeur dans votre parcours.
Alors, pour moi, enfin, le concerto pour clarinette en la majeure de Mozart, c'est une œuvre que je découvre au tout début de mon parcours, que j'apprends très jeune, que je joue souvent, et qui m'a accompagné durant tout mon parcours de clarinettiste. Et c'est d'ailleurs une des premières grandes œuvres pour clarinette, parce qu'à cette époque-là, à l'époque de Mozart, la clarinette en est encore à ses balbutiements. C'est un instrument qui existe plutôt sous la forme donc de clarinette de basset ou de chalumeau, mais donc il n'a pas ses lettres de noblesse aujourd'hui, telles que il n'est pas encore beaucoup usité dans les orchestres. C'est Mozart qui va l'inclure dans l'orchestre.
Et les mettre en valeur.
Exactement. Et puis peut-être, on en parlera peut-être après, mais enfin c'est une des pièces qui m'a fait découvrir la clarinette aussi, et qui m'a c'est la pièce qui m'a séduit vers l'instrument, en fait. Et donc, pour mon parcours de musicien aujourd'hui...
C'est Mozart qui vous... C'est le concert pour clarinette en la majeure qui vous a influencé le plus.
Exactement. En fait, quand j'avais 5-6 ans, donc j'ai un frère, mon père a décidé qu'on ferait de la musique et il nous a demandé de choisir un instrument.
Ah voilà, ça c'est une question que j'allais vous poser par la suite. C'est pourquoi ce choix ? Comment vous vous êtes... comment c'est les choix de ces instruments ont été faits. Mais je vais vous le D'accord. poser après. Ouais. On va écouter avant la musique donc, de Mozart. C'est un morceau qui dure 12 minutes. On ne va pas écouter un entier. Donc on va en prendre les 2 minutes 30 premières de 3 minutes.
Oui, on peut attendre l'entrée de la clarinette parce que donc, c'est un concerto. Il y a l'introduction qui... standard, enfin, où l'orchestre joue tout seul, et puis ensuite le soliste rentre, et puis là on peut écouter un peu.
Bon, on va l'écouter donc, Mozart, concert pour clarinette en la majeure.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Et donc, on vient d'écouter Mozart, concert pour clarinette en la majeure, joué par Martin Frost. Et vous êtes bien sûr à l'écoute de l'émission Lusitania, et avec nous Eva Viegas et Quentin Chartier, qui seront en concert donc le lundi 29 à la Maison de l'Île de France à la cité universitaire à partir de 20h. Donc on va continuer avec nos deux invités. Et on était en train de parler de pourquoi les choix des instruments. Donc, Quentin avait commencé à parler de sa clarinette. Mmh. Et apparemment, au moment de Mozart, il y avait les clarinettes qui n'étaient pas trop mises en valeur, comme elles le sont aujourd'hui. Parlez-nous un petit peu de ces choix, parce que je voulais savoir si, en effet, est-ce que les choix des instruments, c'est vous qui l'avez choisi ou c'est vos parents qui vous ont dit « Non, tu feras la clarinette, mon fils
!» Justement, c'est cette pièce qui m'a fait choisir la clarinette. J'avais 5-6 ans, donc je ne connaissais ni la musique classique, ni les instruments classiques. Finalement, je ne savais même pas que je voulais choisir le piano, la clarinette, la flûte. Enfin, je parle avec mon frère, en fait, parce que mon frère a choisi la guitare et moi, j'ai choisi la clarinette. Il nous a laissé une totale liberté dans le choix des instruments. Et pour qu'on commence à connaître les instruments, il nous a fait écouter différentes œuvres. Il m'a fait écouter le concerto pour clarinette de Mozart. Et je suis tombé amoureux de la pièce et donc de l'instrument en même temps. Et donc, je lui ai dit que je voulais faire de la clarinette. J'ai fait « Ah, papa, je veux faire ça. Je veux faire cet instrument. »
Et c'est les choix que vous avez faits.
Que j'ai fait.
Alors, je me tourne vers Eva Viegas. La même chose. Est-ce que les choix de l'instrument, ça a été fait par vous ou c'est maman ou papa qui vous ont dit « Ma fille, tu feras du piano, c'est très bien. »
Alors, j'avoue que vous me posez un peu une colle parce que moi, j'ai commencé le piano, j'avais 5 ans et demi. Et pour être honnête, je ne sais plus comment j'en suis arrivée au piano. Moi, j'ai une grande sœur, elle a commencé le violoncelle à peu près quand j'ai commencé le piano. Et je crois que si je n'invente pas, je crois que j'ai réclamé mon dû. J'ai dit, moi aussi, je veux faire de la musique. Mais je ne sais plus comment je suis arrivée au piano. Je ne pense pas que ce soit mes parents qui aient choisi ma place, mais est-ce que j'ai entendu un concert? Est-ce que finalement, c'est un instrument un peu évident, le piano? Peut-être un copain ou une copine qui faisait ça. Je sais que j'ai choisi plus tard, parce que j'ai fait du piano, du violoncelle, du chant, de la danse, et qu'à un moment, il a fallu choisir. Et que quand j'avais à peu près 14-15 ans, je me suis dit « bon, bah, on arrête le violoncelle » et j'ai mis un peu plus d'énergie sur le piano. Et là, je pense que la principale raison pour laquelle j'ai choisi le piano, c'est que j'avais un professeur phénoménal et à qui je dois beaucoup et que je vois toujours aujourd'hui. Et d'ailleurs, je pense que nos professeurs influencent toujours beaucoup nos choix.
Voilà. Oui, c'est vrai. C'est la plupart du temps, c'est ça. Si on rencontre quelqu'un qui est sympa, qui nous attire vers quelque chose, on le prend. Alors, je voulais savoir un petit peu, parce que vous avez des parcours musicaux, mais apparemment, vous vous êtes rencontrés au cours de vos études. Vous pouvez nous parler un peu de vos rencontres, de pourquoi ce choix, de ces duos que vous allez faire lundi prochain, par exemple?
Alors, nous, on s'est rencontrés, on s'est rencontrés au lycée, en terminale. On a fait un an de lycée ensemble, puisqu'on était dans une classe spéciale musicale. Et au lycée Racine, à Paris. Et puis, moi, je peux raconter nos débuts. Moi, je crois que c'est l'année après le lycée, j'ai toujours aimé organiser plein de choses. Et donc, j'ai organisé des concerts chez moi, qui s'appelaient les Salons Philémon, parce que Philémon, c'est le nom de mon chat. Que c'était la star de tous ces concerts, il passait toujours au milieu des musiciens. Et donc on faisait ça un dimanche par mois, et à ce moment-là, Quentin il était déjà tourné vers la clarinette, et il venait régulièrement jouer à ces concerts-là, et en fait moi j'étais la pianiste accompagnatrice aussi, et on a commencé à jouer ensemble à cette occasion-là. Je me souviens même qu'on a joué les Fantaisies Stuck de Schumann. Ça a été la première pièce, c'est ce qu'on va sûrement entendre à un moment dans l'émission. Mmh. C'est la première pièce qu'on a jouée ensemble.
Et le trio de Brahms, oui. Avec une amie violoncelliste, Cléophée.
Alors Eva, pour les concerts de lundi, 29, donc comme je le disais, à la Maison de l'Île-de-France, à la Cité universitaire, à partir de 20h, si nos auditeurs veulent vous écouter, dans tous les morceaux et compositeurs que vous deux avez choisis pour ces concerts de samedi, il y en a qu'un qui est vivant. C'est Pedro Manuel Pereira, et vous allez interpréter tous les deux un Fado do Tempo. Est-ce que c'est une composition de lui ou une adaptation qu'il a fait?
Alors, le Fado do Tempo, c'est une composition de Pedro, et en fait qui est, je crois, un arrangement de ses songes d'Amiéterre. C'est des pièces qu'il a écrites, en fait. Pedro, il est pianiste de formation à l'origine, il s'est formé en Russie, puis à Amsterdam, je crois, donc il est né au Portugal, il a commencé au Portugal, et il a écrit ses premières, je crois que c'est son opus 1, ses chansons qui sont vraiment inspirées du fado portugais, et qui sont sublimes d'ailleurs, qui sont toutes aussi belles les unes que les autres, et le public y adore toujours. Et il a, je pense que c'est pour ça qu'il l'a adapté, il travaille maintenant en duo avec le clarinettiste Carl Schreil, qui est clarinettiste à...
l'Orchestre National de l'Île-de-France.
Voilà. Et je pense que c'est pour ça qu'il a adapté ce fado-là. Et il a aussi écrit toute une suite qui s'appelle Duas Igrejas, deux églises, qui est écrite pour clarinette et piano, dont on va aussi jouer un extrait, le deuxième mouvement, qui s'appelle encore une fois Fado.
Donc ça, c'est une composition originale.
Ce sont des compositions originales de Pedro, ouais.
Alors, quelle est la place de la musique lusophone dans vos concerts? Est-ce que je me tourne vers Eva ou vers Quentin?
Moi, je peux te laisser dire d'abord pour toi la place qu'occupe la musique lusophone dans notre duo.
Justement, on commence, c'est assez récent, qu'on commence à jouer des fados, les pièces de Pedro. Mais je dois dire que justement, c'est d'un commun accord et c'est un choix musical et sentimental parce qu'on s'en a été beaucoup touché par cette musique. Moi, comme je vous disais, j'ai découvert la musique portugaise avec Eva. J'ai aussi découvert le Portugal au passage parce qu'on y est allé, on a joué là-bas. Et oui, je dois dire que du coup, je suis très, très heureux qu'on commence cette aventure avec de plus en plus de répertoires portugais qui se marient très bien avec les autres œuvres de notre concert qui sont brésiliennes, argentines. On joue en italien aussi qui écrit des danses latines. Enfin.
Voilà, parce que dans votre concert, vous nous le direz tout à l'heure, quelles sont les autres œuvres qu'on va pouvoir découvrir donc lundi 29. Mais on va écouter donc Pedro Manuel Pereira, Fado do Tempo. Et ce morceau que vous avez choisi, Eva, il le fait avec qui? Il les joue avec qui?
Pedro.
Oui.
Alors, lui les joue avec Carlos Schreil, le clarinettiste. Alors, celui-là, je ne crois pas qu'il soit enregistré. En revanche, ils ont enregistré l'album Duas Igrejas, où il y a justement le fado, deuxième mouvement, qu'on va jouer lundi.
Donc, vous allez jouer cet morceau lundi prochain,
oui.
Le 29. On va l'écouter tout de suite, Fado do Tempo. Thank you. Donc on vient d'écouter Fado do Tempo de Pedro Manuel Pereira, mais ces morceaux-là, la clarinette et les pianos, c'est vous qui les jouez et qu'on va vous découvrir le 29.
Oui, c'est nous qui l'avons enregistré il y a vraiment peu de temps, il y a 2 semaines je pense, à la Haute École de Musique de Genève.
Donc c'est une première.
Oui.
Alors Quentin, bon, on a parlé un petit peu de la musique lusophone. Oui. Quoique, bon, Eva, vous n'avez pas joué seulement Pedro Manuel, vous avez joué d'autres choses liées à la lusophonie.
Oui. Alors la musique lusophone, elle a beaucoup de place pour moi, parce que donc, je suis d'origine portugaise, mes deux parents sont portugais. J'ai toujours écouté la musique portugaise. Et puis j'ai fait aussi une rencontre, la rencontre de Bruno Beltoise, qui est un pianiste qui s'est beaucoup intéressé au répertoire portugais et à qui je dois beaucoup, comme beaucoup d'élèves qui découvrent maintenant le répertoire portugais, parce qu'il a fait tout un travail de recherche et d'édition de la musique portugaise.
Oui, aux éditions Eva. Oui, Ava, pardon, Ava.
Exactement. Et ça m'a permis de découvrir ce répertoire et de le jouer. Je crois même qu'à part la musique de Pedro Manuel Pereira, toutes les pièces que j'ai jouées de répertoire portugais, j'en dois la découverte à Bruno. Et donc j'ai joué notamment beaucoup à quatre mains ou en solo des pièces de Lopes Graça ou de Alexandre Colas. Et on a fait notamment tout un programme en partenariat avec les éditions Chandaigne autour de la diaspora juive portugaise avec le pianiste Dimitri Malignan, où on allait explorer entre autres répertoires ce répertoire-là.
Alors moi je me tourne maintenant vers Quentin. Et j'aimerais lui demander quels sont les compositeurs qu'on va pouvoir découvrir, donc dans lesquels vous jouez tous les deux, donc lundi 29 à la Maison de l'Île de France. Et il y a de la musique portugaise, on vient de parler de Pedro Manuel Pereira, mais il n'y a pas que ça.
Bien sûr, bien sûr.
Quels sont les autres compositeurs? Parce que lusophone, il y en a aussi les Churros, si je ne me trompe pas.
Exactement.
Qui vient du Brésil.
Oui, de Villa Lobos.
Et pas seulement. Villa Lobos, qui est un grand compositeur brésilien.
Très compositeur, oui. Très, très compositeur. Donc, on adapte son œuvre qui est pour guitare, si je ne me trompe pas. Guitare solo à l'origine. Et on l'adapte pour clarinette et piano. Donc, c'est un plaisir. C'est une musique qui est pleine de joie, de rythme. Et donc, on ouvre le concert avec ça.
Et des couleurs.
Oui,
voilà. C'est une musique qui est très colorée. Oui. J'aime beaucoup, oui.
Ensuite, on a aussi les préludes de Santoro.
Qui sont pour piano seul, oui.
On joue évidemment du Piazzolla, donc grand compositeur qui n'est plus à présenter. On joue donc l'histoire du tango, qui est une œuvre finalement assez méconnu, je crois, mais qui donc pour à l'origine pour flûte et guitare, si je me trompe pas.
Ouais.
Et on joue un compositeur italien, donc qu'est-ce qu'il va faire là, mais en fait qui a écrit 3 danses latines, Mangani, Michele Mangani, si je prononce bien, qui est clarinettiste et qui on va jouer ses 2 premières danses au concert du 29.
Donc le concert va durer quoi, 1 heure, une heure et demie.
On va faire une petite pause. On va peut-être présenter aussi les œuvres.
C'est environ 1 heure de concert, oui.
Bon, on va écouter tout de suite après donc la musique de Astor Piazzolla, argentin lui, et le morceau s'appelle Libertango. Donc on va l'écouter tout de suite après.
Thank you.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Et donc, on vient d'écouter les morceaux d'Astor Piazzolla, Libertango, qui sont joués aussi par vous deux. Donc, Eva Viegas et Quentin Chartier. Alors là, je sais que ce concert est sur les auspices des Confluences 24. D'ailleurs, dans l'affiche, c'est marqué en gros Confluence 24. Et je me demande, qu'est-ce que c'est Confluence 24 et quand ils ont été créés?
Alors, Confluence 24, c'est une saison de concerts proposée justement par Bruno Beltoise, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, qui a lieu à la Maison de l'Île-de-France de la Cité Universitaire, qui est une des maisons, un des bâtiments les plus récents en fait, de la Cité Universitaire. Et donc Bruno Beltoise propose une saison de concerts qui a pour but de mettre en lumière la musique contemporaine et de la mettre en regard avec le grand répertoire. Donc disons que la demande qu'il a pour chaque artiste qu'il invite, c'est qu'il y ait au moins une pièce de musique contemporaine, pas nécessairement une création, mais en tout cas écrite par un compositeur qui est toujours parmi nous. Et en fait, on a fait un petit changement de programmation. Donc nous, on a les pièces de Pedro Menor Play, mais comme disait Quentin, il y a aussi les pièces de Michele Mangani, qui est un clarinettiste italien qui est toujours aussi actif, aussi chef d'orchestre, et qui est un autre compositeur contemporain. Et c'est une saison qui a été créée cette année, si je ne me trompe pas. Je crois que nous sommes le deuxième concert. Cette année, il n'y a pas eu encore beaucoup de concerts, mais à partir d'octobre, il y aura un concert tous les mois. Et Confluence 24 deviendra en 2025 Confluence 25.
Donc merci à Bruno.
Bruno Encore Beltoise, une fois, merci beaucoup à Bruno. Oui.
Qui fait un travail remarquable par rapport à faire connaître la musique classique portugaise, très méconnue ici en France, même à vos niveaux-là, que vous êtes des étudiants de musique classique et que vous connaissez à peine grâce à lui et à ses recherches à lui et à Jouan aussi, qui fait aussi des recherches sur la musique portugaise. Donc un grand merci à Bruno. Et aux éditeurs Ava, heureusement qu'ils sont là pour pouvoir éditer toutes ces partitions, parce que sinon tout disparaîtrait ou serait mis un petit peu à l'oubli comme ça a été fait jusqu'à maintenant.
Surtout qu'il y a en fait un intérêt qu'on ne soupçonnait pas forcément, parce que je me souviens que j'ai fait il n'y a pas longtemps à Genève un concours de recrutement pour être remplaçante à l'Institut Jacques Dalcroze. Et je leur ai parlé du répertoire portugais et ils m'ont regardé avec des étoiles dans les yeux en me disant « Mais nous, on a toute une communauté portugaise qui veut avoir des pièces à jouer, donnez-nous toutes ces références. » Et en fait, ils sont ravis d'avoir accès à ces partitions et de pouvoir donner des œuvres à jouer à leurs élèves, parce que le travail de Bruno, il est aussi adressé aux élèves avec tout un répertoire pour les plus jeunes.
Oui, 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 et c'est vraiment un travail remarquable. Donc on va vous suivre dans ces concerts Confluence. Cette année, c'est Confluence 24. L'année prochaine, ce sera 25. Et on continuera à vous suivre, vous et tous les autres compositeurs. Non, vous n'êtes pas encore peut-être compositeur?
Alors, je ne suis pas sûre que ce soit un projet ni pour Quentin, ni pour moi. Improvisateur, parfois, à nos heures perdues, surtout Quentin. Mais surtout interprète.
Voilà. Alors, je voulais te demander si vous avez déjà enregistré des albums, parce que ces morceaux-là qu'on vient d'écouter de Pedro Manuel Pereira, vous l'avez enregistré, mais il n'est pas un album, il est juste un livre écoute. Mais est-ce que vous avez l'un ou l'autre déjà enregistré en solo ou pour d'autres accompagnements de CD?
Alors, ensemble, on a fait des enregistrements qui sont surtout sur YouTube ou sur les réseaux. J'espère qu'on aura l'occasion d'enregistrer des albums ensemble, mais Quentin pourra vous en dire plus sur un des projets récents qu'il a fait.
Moi j'ai eu le privilège de jouer récemment avec un grand pianiste, François-Xavier Poisat, qui enregistre l'intégrale des œuvres pour piano de musique de chambre, enfin pas que des œuvres pour piano de manière générale, de Maurice Ravel, dont on peut se souvenir qu'il a fait l'orchestration des tableaux de l'exposition qu'on a écouté au début de l'émission. Donc c'est un travail colossal de souvenirs, je ne veux pas me tromper, mais c'est 7 heures de musique, 6 CD, et j'ai eu la chance donc de participer à un des CD pour enregistrer les 3 poèmes de Mallarmé, avec donc François-Xavier, le Quatuor Voce, et des collègues vent. Et donc ça c'était une expérience incroyable. Et donc le CD, il sort en octobre 2024, je crois.
Vous nous tiendrez au courant. Oui. Donc, pas des enregistrements prochainement, ni l'un ni l'autre. Ou peut-être, oui, dans un futur assez proche.
Alors, on va vous offrir des enregistrements, mais sur les réseaux. Pour l'instant, pas d'album, en tout cas.
Oui. Alors, quels sont les prochains rendez-vous que vous avez dans les jours, semaines, mois qui viennent?
Alors, nous avons ce programme-là de musique latine que l'on joue le 29 avril à Paris, et ensuite le 11 et le 14 mai près de Genève, le 11 mai à Saint-Julien-en-Genevois, et le 14 mai à la Ferme Rosset près de Genève. Alors ensuite, moi je joue sans Quentin le 18 mai, et notre prochain rendez-vous à deux, finalement c'est notre festival.
Alors, ça, je voudrais en parler un petit peu. Ce festival, ça s'appelle les Journées musicales du chalet, c'est ça?
Les Journées musicales au chalet, exactement.
Au chalet, pardon. Et quand est-ce que ça a été créé et quand est-ce qu'elles auront lieu, ces Journées musicales au chalet?
Alors, si on part du commencement, il y a à Bivier.
Est-ce que c'est un festival que vous avez créé?
C'est ça, qu'on a créé, et la première édition...
Tous les deux. Donc,
Festival de musique de chambre, 5, 6, 7 juillet à Bivier, qui est une petite commune à côté de Grenoble. Et donc, il faut savoir qu'à Bivier, il y a un superbe chalet dans les montagnes, avec un salon et donc de la place pour accueillir du public, et un superbe piano, 3/4 de queue, je crois, Bösendorfer. Et on a fait un concert avec Eva dans ce chalet. On a fait un stage de musique aussi avec Andrea Corradiari, un ancien prof d'Eva. Et en fait, le public a extrêmement bien réagi au concert qu'on faisait là-bas. Et c'est venu du public, l'idée du festival. Ils ont dit, pourquoi pas une rock d'Anteron.
Exactement, une rock d'Anteron à Bivier au chalet.
Voilà, donc bon, en fait, sur le coup, on rigole. Et puis en fait pourquoi pas? Le propriétaire du chalet, Jo, est incroyable. Il nous laisse carte blanche pour organiser ça. Il nous met le chalet et le piano à disposition. Et donc, on a créé ce festival, dont la première édition, 5, 6, 7 juillet, qui est autour de la transmission. Donc, il y aura notamment Bruno Beltoise, Andrea Corradiari.
Qui sont en fait nos anciens professeurs, ou en tout cas nos modèles. On veut donner une place justement à tous ces musiciens qui nous ont beaucoup influencés, comme vous avez entendu Bruno Beltoise. Andrea Corradiari, en fait, c'est le professeur dont je vous parlais tout à l'heure, qui a influencé en grande partie mon choix. Il y aura son collègue Antoine...
Les choix de l'instrument.
Oui, tout à fait, mon choix d'instrument. Peut-être aussi mon choix de carrière, hein, mais j'ai passé 10 ans chez lui, ça fait beaucoup d'années pour nous guider. Son collègue Antoine Didry de Marle, avec qui j'ai aussi l'occasion de travailler beaucoup de fois. Et Andrea, en fait, nous a aussi formés en duo. Ça a été notre principal professeur de duo. Et puis, on a aussi la chance d'avoir, normalement, si tout se passe bien, un groupe de grands élèves du Conservatoire de Grenoble qui viendraient nous rejoindre et qui seraient, d'une certaine façon, la génération en dessous de nous, qui représenterait ceux qui ne vont pas nécessairement se professionnaliser d'ailleurs, mais sont les grands amateurs de conservatoire qui doivent avoir autour de 18 ans et à qui on offre une possibilité de jouer sur scène.
Leur première, ou presque.
Ou presque, on espère leur première, mais oui.
Et donc dans cette journée musicale au chalet, quels vont être... Bon, vous avez parlé de Bruno Beltoise, qu'on connaît parce qu'il est déjà venu ici à l'antenne nous parler beaucoup de la musique, de la musique classique, de la musique portugaise. Quels autres compositeurs ou quelles autres musiques vous allez jouer dans cette journée? Ça va être juste une journée ou plusieurs journées ou...
Alors, c'est 3 jours de festival avec finalement un concert le vendredi soir, un long concert le samedi soir et une journée de musique le dimanche. Et alors, c'est principalement un festival de musique de chambre. Donc, on revient à ce qu'on disait un peu au début de l'émission. Ce bonheur de jouer en petit ensemble, presque de jouer avec le public, finalement, puisque c'est un lieu où on sera très proche du public. Où le piano aussi occupera une place assez centrale, parce que ces trois personnalités sont trois pianistes et qu'on a aussi accès à un bel instrument. Mais on aura aussi de la clarinette, du violoncelle, de la flûte, du chant.
Du saxophone,
de la contrebasse. Et on avait l'espoir, tout ça c'est du répertoire plutôt classique, et on avait l'espoir de pouvoir aussi avoir un duo de musique française et variété qui venait nous rejoindre le dimanche. Mais c'est en suspens, peut-être que ce sera pour l'édition 2025, on ne sait pas encore.
Et ce groupe, ça serait de la musique quoi, rock, pop
Alors ils font des reprises complètement différentes, mais ils font pas mal de reprises de pop et de rock. Ils ont tout un répertoire, il s'appelle le Duo SEM. Je vous invite à aller les voir sur Instagram, ils sont très chouettes. Et alors elle joue au piano et lui est à la guitare et ils chantent tous les deux merveilleusement bien.
Alors peut-être que pendant ce concert, Eva, vous allez chanter aussi un peu.
Alors honnêtement, s'ils viennent et qu'ils chantent, je compte bien me joindre à eux discrètement, peut-être sans micro. Mais en tout cas, oui, je chanterai avec eux.
Bon, ben, une prochaine fois, on va vous écouter chanter. Et Eva, là, pour les musiques du chalet, vous pouvez nous répéter les dates ?
5, 6, 7, pardon. On t'a demandé à toi. 5, 6, 7 juillet, à Béziers. Donc voilà. À côté de Grenoble.
D'accord. Et sinon, pour vous écouter, bien sûr, lundi 29, à la Maison des Lignes de France, à la Cité Universitaire, à partir de 20h. Donc, à peu près une heure de concert dans un répertoire qui fera un voyage aller-retour entre la péninsule ibérique, l'Amérique latine, voire l'Italie, apparemment. J'étais pas au courant. Donc, et là, on va écouter Joseph Haydn, sonate en la bémol, en allegro moderato, au piano Eva Viegas.
Vous écoutez Allegre FM 93.1. Thank you.
Donc, on vient d'écouter Joseph Haydn avec la sonate en la bémol majeur au piano, Eva Viegage. Donc, je vous tourne vers tous les deux et je me demande quels sont vos projets futurs, très rapidement, parce que l'heure, elle passe malheureusement très vite.
Alors, on s'intéresse tous les deux, c'est ce qui nous réunit d'ailleurs, à tout type de répertoire. Et on a des rêves et des projets, parfois plus concrets que des rêves, de construire différents programmes. Donc on a celui de musique latine, on a aussi comme projet de construire un programme autour de la musique juive du XXe siècle, autour notamment de la sublime sonate de Weinberg, très peu connue, mais qui est vraiment incroyable. Il y aurait aussi de la musique de Bernstein et de Castelnuovo Tedesco, compositeur italien que très peu de gens connaissent aussi. On a aussi un programme de musique allemande autour de Brahms et des Schumann, de Clara Schumann et de Robert Schumann, qu'on a déjà joué et qu'on compte reprendre, qu'on joue d'ailleurs en janvier 2025. Et au-delà de ça, évidemment, on veut jouer avec nos collègues, on ne veut pas rester toujours tous les deux, et jouer notamment en trio, avec violoncelle, le répertoire est sublime, avec le célèbre trio de Brahms, celui bien moins connu de Fruhling, mais tout aussi beau, et les pièces de Bruch.
Mais c'est un très beau projet. Et quand est-ce que ça va se concrétiser?
Alors, on a normalement une date aussi, cette fois-ci c'est 2025. Je n'ai pas encore la date précise, ce sera en Provence, dans la ville de Tarascon.
Bravo! C'est des beaux projets tous les deux, vous êtes très enthousiastes et ça fait plaisir de voir. Donc je rappelle encore une fois que vous serez donc lundi 29 à la Maison de l'Île-de-France, à la Cité universitaire, donc à partir de 20h pour un ensemble de musiques qui vont de la péninsule ibérique jusqu'à l'Amérique latine. Donc, un grand merci, Eva Viegas et Quentin Chartier, d'être venus nous parler de votre musique et surtout de ce concert. Donc, qui aura lieu, je le rappelle, lundi 29 à la Maison de l'Île-de-France. Là, je vais faire quelques annonces. Donc, je voudrais vous rappeler que, aussi à la Cité universitaire, il y a une maison qui s'appelle la Maison du Portugal, André Gouveia, et que dimanche, donc demain 28 avril à 12h, dans le cadre du 50e anniversaire de la Révolution des œillets, l'historien Vitor Pereira présente son livre « C'est le peuple qui commande la Révolution des œillets de 1974 à 1966, dans un échange avec trois résidents de la maison du Portugal, André Gouveia, donc Luna Oliveira, Lúlio Garcia et Luisa Pereira, qui vont lire des passages de ces livres. Et dans ces livres, donc, Vitor Pereira nous rappelle que malheureusement, si dans d'autres pays on garde les traces des événements majeurs de ces différents pays, au Portugal, l'événement majeur qui a été la révolution des œillets, parce que le Portugal pendant 50 ans ou presque a eu une dictature la plus longue d'Europe, et en 1974, donc il y a eu une révolution qui a permis au pays de se libérer de cette dictature. Beaucoup de ces événements sont oubliés et puis surtout beaucoup de traces de cette révolution disparaissent peu à peu et personne, les nouvelles générations ont oublié qu'à un moment donné, c'était pas si facile ici charmant le Portugal comme l'est aujourd'hui dans lequel tous les vacanciers français y vont passer et non seulement. Donc ça a été un pan de l'histoire qu'il faut rappeler. Et donc dimanche 28 avril à 12h à la Maison du Portugal, vous pouvez échanger avec Vitor Pereira et qui va vous présenter donc son livre. Et sinon, pour égayer notre week-end, qui paraît-il va être pluvieux, et je dirais même un peu friscouné, donc prenez un bon chocolat, un plaid, et lisez la très belle bande dessinée, ou roman graphique, comme on veut l'appeler, de Madeleine Pereira, paru chez Sarbacane et qui s'intitule Barbuleta. Madeleine Pereira, elle a conçu les scénarios, les dessins et les couleurs de son livre. Barbuleta est un vrai bol d'air et un récit, pas de vie, quoique, mais de vie, au pluriel, vie des personnes qu'elle a interrogées pour comprendre ses origines. Donc, n'oubliez pas ce livre, Barbouillette de Madeleine Preda, aux éditions Sarbacane, est une vraie beauté. Donc, pour cela, je vous dis à tous merci. Merci, Quentin Chartier, d'être ici. Merci, Eva Viegas, de nous avoir présenté ces belles musiques que vous interprétez. Restez donc à l'écoute d'Aligre FM, bien sûr. Suis version originale de Patrick Léon-Émile. Et moi, j'ai dit un grand merci à nos quatre techniciens, Thomas, Alexandre, Dariano et Armand. Et on se quitte en musique avec un morceau de Robert Schumann, Fantasiastück. Ça se prononce comme ça, Quentin?
Fantasiastück.
Voilà, merci. Donc, qui est interprété par Quentin Chartier à la clarinette. On va l'écouter tout de suite. Et moi, je vous donne rendez-vous samedi prochain de 18h à 19h sur Aligre FM pour une nouvelle émission de Lusitania. Au revoir à tous.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.